Alors aujourd'hui, je suis chez Michel Diaz, qui a écrit un livre qui s'appelle La citoyenneté confisquée. C'est un nouvel essai de refondation du politique. Michel Diaz sera mercredi 5 avril au café littéraire Grand Café à Felletin. Bonjour, monsieur Diaz.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter? Pour que l'on puisse voir comment vous est venue cette idée et cette formation pour écrire le livre.
Bon, mais ma formation, elle est adéquate parce qu'il s'agit d'un livre de philosophie politique. Et donc, je suis professeur de philosophie depuis de très nombreuses années. J'ai obtenu l'agrégation, au tout début des années 1990. Et depuis, j'enseigne la philosophie en lycée. J'ai travaillé 20 ans au lycée Pierre Bourdon de Guéret. Et depuis maintenant, plus d'une dizaine d'années, je suis enseignant au lycée Eugène Jameau à Aubusson. Et si je peux me permettre, quand vous me proposez de me présenter à vos auditeurs, je pense que c'est effectivement pour faire connaissance, mais c'est aussi peut-être pour connaître la légitimité que j'ai à proposer un ouvrage de philosophie politique qui prétend qui prétend être un nouvel essai de refondation du politique. Et là, ce que je dirais sur la légitimité que j'ai en tant qu'auteur, c'est que je suis un citoyen lambda, je suis un citoyen quelconque, je fais partie de ceux que Daniel Salnave, académicienne, appelle les innombrables, ceux que Pierre Rosanvallon appelle les invisibles, ceux que notre auteur-compositeur local Gauvin Serre appelle les oubliés. Voilà, je suis un de ceux-là, je suis un citoyen lambda, et je pense que ça me qualifie complètement pour écrire un livre de philosophie qui vise à l'émancipation politique des simples citoyens que nous sommes tous. Voilà ce que je dirais pour me présenter.
D'accord, donc la citoyenneté confisquée, nous aurait-on pris des droits?
Alors, je le dirais pas en termes de droit, parce que si on va sur ce terrain-là, aujourd'hui, on définit précisément la citoyenneté par les droits, parce que nous sommes sous le régime d'une citoyenneté que j'appellerais juridique, c'est-à-dire que c'est une citoyenneté qui est essentiellement, au contraire, définie par les droits qui sont reconnus aux individus. Dans un régime démocratique comme le nôtre. Non, ce que je dirais, c'est que ce qu'on nous a confisqué, c'est non pas cette citoyenneté juridique dont nous continuons de bénéficier ou dont nous bénéficions toujours plus, mais ce qu'on nous a confisqué, c'est la citoyenneté politique. Et cette citoyenneté politique, c'est la citoyenneté des origines. C'est la citoyenneté telle qu'elle a été, en tout cas selon moi, mais je ne suis pas le seul à dire, inventée. Dans la Grèce antique, et qui ne pouvait s'entendre à l'époque que par la participation directe des citoyens aux affaires humaines, c'est-à-dire au traitement des affaires publiques. Et c'est cette citoyenneté-là directement impliquée dans la décision politique qu'on nous a confisquée, effectivement.
La
Voilà.
démocratie directe.
Alors, il s'agissait de ça à
À
l'époque.
l'époque.
Effectivement, il s'agissait de démocratie directe. Cela dit, moi, dans cet essai, je ne revendique pas un retour à la démocratie directe. Au contraire, même, j'essaie d'explorer les propositions qui ont été portées, alors surtout au XIXe siècle, de retour à une démocratie directe. Donc, je pense à plusieurs auteurs, dont notamment Charles Renouvier, qui était un personnaliste et qui s'est beaucoup engagé dans la proposition de la démocratie directe. Or, ces auteurs-là, en réalité, et je m'en suis aperçu en travaillant sur Pierre Rosanvallon, qui est un grand spécialiste de la démocratie, eh bien, ces partisans de la démocratie directe, en fait, ce qu'ils prônaient, c'est plutôt la disparition du politique. Et donc, si effectivement, ils souhaitaient que les citoyens reprennent directement en charge les affaires publiques, c'est parce qu'ils voulaient diminuer considérablement le nombre des lois et le nombre de décisions politiques à prendre dans une société. Si vous voulez, c'était pour faire court, parce qu'on n'a pas trop de temps, ce sont des auteurs qui voulaient repolitiser les citoyens, mais dépolitiser complètement la société. Donc en fait, c'est pas en termes de démocratie directe que je m'exprime, pour une autre raison encore, c'est que dans démocratie, le démos, comme vous le savez, c'est le peuple. Mmh. Or, le peuple, c'est une notion que moi, je considère, là aussi je suis pas le seul, complètement abstraite, complètement fictive. Et moi, ce que j'essaye d'étudier dans ce livre, c'est une citoyenneté de la personne. Voilà, c'est une citoyenneté de la personne directement en charge des affaires politiques. Voilà.
Une prise de conscience peut-être un peu plus prononcée ?
Ah ben, alors, la citoyenneté politique, ça passe par la prise de conscience, oui, mais ça, c'est la moindre des choses. Mais ça passe par l'exercice du jugement délibératif. Il s'agirait de citoyens qui délibèrent. Et moi, ce que je prône et ce que j'essaye de penser, en tout cas du point de vue de la théorie philosophique, c'est que la citoyenneté, ça consiste en une activité délibérative qui devrait être accordée aux citoyens. Évidemment, on en est très 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 loin. Donc là, ici, vous mesurez le côté utopique aussi de mon propos, hein. Et prospectif.
Voilà, donc là, dans votre livre, on constate qu'il y a deux parties. La première partie, je dirais, c'est la critique de l'existant. Et ensuite, une prospective vraiment utopique ou réalisable ?
Alors, vous voulez qu'on parle tout de suite de la prospective ou...
Ah, c'est vous qui choisissez.
Je dis un mot peut-être sur la partie critique, parce que la partie critique elle-même... Bon, j'insiste sur... C'est une critique du système représentatif. J'insiste sur le fait que c'est une démarche philosophique. Je ne suis pas du tout dans une démarche militante ni activiste, mais vraiment purement philosophique.
La partie représentative, vous pouvez développer. Qu'entendez-vous par là ?
Donc, je critique le système représentatif, c'est-à-dire le système la démocratie représentative telle qu'on la connaît, c'est-à-dire qui consiste à déléguer à une classe de personnes qu'on appelle les politiques, et en particulier donc les représentants que nous élisons, et bien de déléguer à ces personnes les affaires humaines, comme disent les philosophes. Donc c'est ça que je critique. Alors je critique en m'appuyant sur un commentaire de deux grands spécialistes de la démocratie représentative qui sont Bernard Manin. Bernard Manin, il faut lire Les principes du gouvernement représentatif. Hein. Alors ça, tout est là-dedans. Et Pierre Rosanvallon, alors là, il faudrait lire toute son œuvre. Et il se trouve que ces deux spécialistes sont des gens qui sont honnêtes, clairs sur les véritables fondements du système représentatif. Ils le défendent, ils le soutiennent, mais ils nous éclairent aussi la signification, les enjeux au départ du système représentatif. Mmh. Or, ce qu'on voit, ça c'est une vérité historique, mais ce qu'on voit en lisant ces deux auteurs notamment, et en lisant d'autres aussi, c'est que le choix du système représentatif par ce qu'on appelle les pères fondateurs de la République, que ce soit en Europe, en France ou que ce soit aux États-Unis, eh bien, les justifications du système représentatif par les pères fondateurs de la République, c'est une justification d'ordre capacitaire, comme dit Pierre Rosanvallon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la vraie raison du choix du système représentatif, c'est que on considère que le peuple est incapable d'exercer le jugement sur le général, c'est-à-dire de juger des affaires communes, des affaires collectives, que le peuple donc est incapable de jugement et que le peuple, je le dirais un peu trivialement, mais c'est quand même bien ça, n'est bon qu'à une chose, c'est travailler, commercer, consommer et faire fonctionner l'économie. C'est ça qu'on... Et ces auteurs-là, qui sont partisans du système représentatif, reconnaissent. Et évidemment, ils essayent à partir de là, ils tentent de réhabiliter le système représentatif en disant, on peut l'accommoder pour qu'il soit plus démocratique. Parce que les républicains, à l'origine, sont antidémocratiques. Ils sont antidémocratiques parce que, eux, la seule démocratie à laquelle ils pensent, c'est la démocratie directe dont on parlait tout à l'heure. Et donc, ils ne deviennent démocrates qu'à partir du moment où on arrive à convaincre le peuple qu'il peut y avoir une démocratie représentative.
Absolument.
Voilà. Voilà. Et donc, ces auteurs, Rosan Vallon notamment, essayent quand même de réhabiliter le système système représentatif en disant ben, on peut y instiller un petit peu de démocratie. Et je m'emploie à contester, disons, cette proposition de réhabiliter aujourd'hui le système représentatif. Voilà, ça c'est dans la première partie.
Oui.
Mais la première partie ne s'arrête pas là.
D'accord. La deuxième partie, ce sont des propositions.
Alors, la deuxième partie, ce sont des propositions. Avant cette deuxième partie, il faut aller rechercher dans les origines grecques ce qu'est la citoyenneté politique, véritablement. Et là, donc, je passe par un très long et peut-être un peu fastidieux pour les lecteurs, travail sur Aristote. Parce que c'est dans Aristote que je cherche les fondements de ce que j'appelle la citoyenneté politique. Et donc, si vous voulez qu'on passe tout de suite à la deuxième partie, qui est prospective, et bien effectivement, j'essaye là de passer en revue les conditions philosophiques, hein, je dis bien les conditions philosophiques, qu'il faudrait mettre en place, réunir, pour obtenir le retour, en tout cas, de la citoyenneté politique, l'émancipation des citoyens et une prise en charge du politique par les citoyens. Donc j'essaye de faire l'inventaire des conditions philosophiques qui seraient indispensables pour que nous puissions y arriver.
D'accord.
Et vous voulez peut-être les connaître ?
Oui, je pense que c'est la base, non
de... Alors, mais évidemment, on n'a pas beaucoup de temps.
On n'a pas beaucoup de temps.
Je rappelle que c'est développé sur 618 pages,
voilà,
au format A4.
On va essayer de ne pas le développer sur 618 heures.
D'accord.
Alors, essayer de expliquer petit peu, pour nos auditeurs, les grandes lignes.
Je pense que pour qu'advienne une citoyenneté que j'appelle politique, c'est-à-dire une citoyenneté délibérative, il faut premièrement réhabiliter les théories philosophiques du sujet. Le sujet, celui qui dit « je », est celui dont le « je » est fondé sur la capacité rationnelle, sur la raison. Et en philosophie, on s'est attaché à dénoncer la figure du sujet, celui qui dit « je », celui qui pense, le « je » pensant de Descartes, hein, comme une fiction. Or, je pense que c'est peut-être une fiction, mais seule cette fiction-là peut donner droit aux citoyens en tant que personne de prendre part au jugement délibératif, à la décision collective. Voilà, ça c'est donc la première condition, c'est la réhabilitation de la figure du sujet, la figure philosophique du sujet. Et la deuxième condition, ce serait de requalifier ce qu'on appelle le mouvement social, on est en plein dedans en ce moment avec la réforme des retraites, requalifier le mouvement social et la question sociale en mouvement politique et en question politique. Parce que ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'en fait ce qu'on appelle la question sociale et ce qu'on appelle le mouvement social, c'est pas du social, c'est du politique. C'est fondamentalement du politique. Et je pense que reléguer les citoyens du côté du mouvement social, c'est leur refuser l'expression dans la sphère politique. Donc ça serait la deuxième condition. La troisième condition, ça serait de redéfinir totalement les finalités de l'école. Je pense que si nous étions dans un système véritablement démocratique, c'est-à-dire qui donne la parole aux citoyens, il faudrait que l'école soit là pour former les citoyens à la délibération. Voilà, donc ça c'est encore un autre axe. Un autre axe, c'est qu'il faut révolutionner complètement notre rapport au travail. Nous ne sommes pas faits pour travailler, nous ne sommes pas nés pour travailler. Je parle du travail aliéné, hein, du travail aliéné, voilà. Et nous ne sommes pas nés pour aliéner nos forces de travail pour les besoins de l'économie. Là, je prends le parti d'Aristote. Nous sommes des animaux politiques et nous sommes nés pour exercer l'activité politique. Il y a encore un autre axe qui serait de réhabiliter aussi ce que j'appelle le désir d'idéalité, c'est-à-dire une certaine naïveté qui me semble constitutive de l'aspiration citoyenne à la justice, au bien, à la dignité, à l'humanité. Toutes ces choses dont on nous dit à longueur de journée, oui, c'est bien joli, la justice, la dignité, l'humanité, mais enfin, le monde est compliqué, vous savez, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'il faut, redonner droit à cette naïveté qui est une naïveté d'ordre moral, qui est le fondement de la citoyenneté. Et enfin, il y aurait lieu de changer aussi de modèle économique. Et là, la seule réflexion économique que je trouve en lien avec une émancipation des citoyens et une arrivée des citoyens dans l'espace politique, eh bien, c'est la proposition que nous font les théoriciens de la décroissance. Alors ça, évidemment, ça n'a pas très bonne presse, mais je crois que les théoriciens de la décroissance, ils ne mesurent pas assez les potentialités du modèle qu'ils proposent en matière d'émancipation du citoyen et d'existence d'une citoyenneté délibérative. J'en ai terminé, excusez-moi.
Non, mais c'est très, très intéressant et je pense que nos auditeurs vont être conquis. Pour ceux qui veulent approfondir cette lecture, où pouvons-nous trouver vos livres ?
Alors, ce livre part avec un handicap qui est celui de l'auto-édition. Et donc, vous le trouverez en Creuse, en dépôt dans quelques librairies, à la Maison de la Presse à Feltin. Je pense que vos auditeurs connaissent ces lieux, sans vouloir faire de publicité, mais
pourquoi pas. Non, on fait la publicité pour toutes les bonnes librairies.
Très bien. On le trouvera aussi en dépôt à la Licorne. Et sinon, c'est un livre qui sera disponible à la commande. Et donc, bon, moi qui comme vous, voudrais promouvoir l'activité des libraires, je conseillerais à vos auditeurs d'aller le commander dans leur librairie préférée. Et à ce moment-là, il sera imprimé à la demande. C'est un mode d'impression à la demande, donc il suffit de le commander et dans la semaine ou les 15 jours qui suivent, le lecteur recevra son volume imprimé. Il est également disponible sur les librairies en ligne, évidemment, toutes les librairies en ligne qu'on ne connaît que trop, mais il est aussi présent là. Et il existe aussi, ou il existera dans quelques jours, une version e-book. Oui. C'est-à-dire une version numérisée.
Version numérisée. Autre question, pour vous contacter, avez-vous une page Facebook, un site ?
Oui. Donc j'ai une page Facebook, Michel Dias, mais j'ai l'intention effectivement d'ouvrir dans quelques jours là, un groupe Facebook qui s'intitulera « La citoyenneté confisquée ». Pour justement essayer d'échanger sur les bases de cet ouvrage sur la problématique d'un régime des citoyens, donc d'un retour des citoyens aux affaires publiques, si j'ose dire. Donc ça sera une page Facebook dédiée, voilà, la citoyenneté confisquée. Et j'ai créé ça récemment sur Instagram aussi. Mais j'avoue que je ne suis pas un grand spécialiste des réseaux sociaux. Je m'y essaye parce que ces idées-là, elles ont vocation évidemment à être partagées, à être débattues, à être controversées. Bien entendu, j'attends pas du tout qu'on soit d'accord avec les propositions que je porte, mais qu'elles soient débattues. Donc oui, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, on devrait pouvoir m'y rencontrer.
D'accord. Et dans l'immédiat, ça sera le 5 avril à Feltin, au Grand Café, avec l'association Plaisir de Lire. Je rappelle à nos auditeurs que l'association Plaisir de Lire fait un café littéraire tous les mois avec un auteur différent et que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de Radio Vassivière ce reportage. Michel Dias, je vous remercie.
Merci à vous, c'est très gentil.
Au revoir et à bientôt sur Radio Vassivière.